Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Tout est bon ?
Tout est bon.
Eh ben, salut Baptiste.
Salut.
Écoute, je suis trop content d'être là. Merci infiniment de faire une petite pause pendant... Là, c'est 2 semaines là que vous êtes sur Marcoussis ?
2 semaines sur Marcoussis avant de rejoindre Cap Breton la semaine prochaine. Ouais.
Ok, la pression commence un peu à monter.
Ouais, doucement forcément parce que là on va attaquer les matchs amicaux, donc je pense qu'on rentre dans le vrai et c'est là qu'on va se rapprocher de la fameuse liste des 33. C'est ce qui compte d'abord dans un premier temps, puis ensuite la Coupe du Monde.
Bah écoute, j'ai pas de bois tout de suite, mais j'irai toucher une grosse table en sortant pour toi. Merci beaucoup de prendre le temps, ça me fait super plaisir. Il y a plein de sujets en plus qui m'intéressent, comme je t'ai dit, un peu envie de discuter fraternité dans le sport de haut niveau, aussi envie de parler de l'extrasportif, parce que je sais que toi tu t'y prends tôt jeune, et tu fais des projets que j'ai trouvé très sympas et originaux. Mais avant qu'on commence à parler de tout ça, et que forcément j'ai aussi quelques petites blagues de rugbyman que je vais faire, parce que hier je dînais avec tous mes potes de Vincennes, et forcément tu vois, ils m'ont dit 2-3 petites anecdotes ou 2-3 petites chambrettes que je dois faire. On va leur faire le petit clin d'œil, on leur fera ce plaisir là, mais... La question traditionnelle avec tous les athlètes que j'ai reçus pour Extraterrien, c'était de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Ben écoute, finalement, mon premier souvenir de sport, il se rapporte à mes débuts dans le rugby. Donc moi, j'ai commencé assez jeune, vers l'âge de 6 ans, au Loup Rugby, donc club dans lequel je joue toujours aujourd'hui. Bon, il s'avère que moi, mon père, il était footballeur et bon, je suis issu d'une famille de footeux. Et quand j'étais petit, j'ai toujours voulu faire du foot. Donc, c'était pareil pour moi ou pour mon frère. On allait voir les matchs de l'OL à Gerland.
C'est la grande équipe en plus.
C'était la belle époque. Et si tu veux, nous, quand on se projetait, on voulait jouer au foot, jouer à Gerland. C'était quelque chose qui nous faisait rêver. Donc, on avait envie de s'inscrire au foot. Sauf que mon père, il avait fait toute sa carrière dans le foot et... une année de rugby avec son travail à la fin de sa carrière, mais juste en amateur. Et puis un jour, il est revenu et il nous avait inscrit au rugby. Et je me rappelais que pour moi, ça, c'était un déchirement. Et j'étais allé m'enfermer dans ma chambre, j'avais pleuré pendant 2 heures. Bon, le mercredi d'après, j'étais à l'entraînement. Au début, j'ai pas accroché. Je suis rentré, j'ai dit je veux pas y retourner. Pendant un mois, j'y suis pas allé. La fois d'après où j'y suis retourné, j'ai créé des amitiés, des personnes avec qui je suis toujours ami aujourd'hui. Et tu vois, c'est ce moment-là, en fait, qui me rappelle... c'est mon premier souvenir du rugby, vraiment, c'était de me dire, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu faire. Et pour le coup, finalement, aujourd'hui, ça devient la caractéristique principale de ce que je suis aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui a de la valeur pour moi de me dire que finalement, je me suis accroché et je pense que ça me représente bien.
Ok. Écoute, je savais pas ça de toi, tu vois. Même en préparant l'interview, je savais pas que la première fois, t'étais très déçu de chausser les crampons et d'aller.
On était petits.
Ouais, on était petits, ouais. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que moi, je suis tombé un peu dans le rugby aussi par hasard. J'étais en école d'ingé, j'étais tout gringalé, physique de tennisman, tu vois. Je sais pas si tu vois. Donc tout fin. Et tu vois, un jour en rigolant, je rencontre un mec à l'école et qui me dit, mais viens jouer avec nous. En plus, il nous manque un demi de mêlée, un petit. Soit on te mettra à l'aile, soit on te mettra à la mêlée, mais on a besoin d'un petit rapide et tout. Tu vas te muscler, t'inquiète. Et puis au début, j'avais peur. Au début, j'ai fait les portes de saloon. Au début, je me suis pris des sacrés tampons et puis comme je te disais encore hier soir, j'étais en train de dîner avec mes amis, donc une fois que ça te pique, je crois que c'est parti pour la vie, quoi. Je sais pas si c'est toi que tu le vois comme ça, mais en tout cas si, j'imagine que c'est ta deuxième famille aujourd'hui.
Ouais, bah clairement, en plus c'est vrai que je pense que ça te met souvent face à tes responsabilités. Moi je ressens souvent cette émotion là quand des fois t'as un peu d'appréhension d'être sur le terrain et que finalement une fois que t'y es, t'as plus le choix parce que t'es confronté à certains joueurs qui sont vachement plus costauds que moi, enfin que nous en l'occurrence, on peut le dire. T'as pas le choix. Si tu veux pas te faire mal, t'es obligé de te mettre en face et de donner tout ce que t'as. Donc je pense que c'est aussi une belle leçon, et tu vois, de se dire que finalement, une fois que t'as commencé le match, t'as plus le choix et faut se donner à fond.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, je me sens un peu l'esprit du gladiateur, tu vois. Une fois que t'es dans l'arène, de toute façon, c'est soit tu vas à fond et tu tentes ta chance, soit tu vas te faire rouler dessus. Et du coup, c'est une bonne école de la vie. Mais du coup, attends, si je reviens sur l'Olympique Lyonnais, c'est que t'es qui ton joueur préféré? T'es plutôt Team Juninho, Anderson, Wiltord, je sais pas, tous ceux qui m'ont
fait...
Ouais,
il y en a eu un paquet.
Essien aussi, ouais, Juni.
Voilà, à cette époque-là, il y avait toute l'équipe qui était fabuleuse, mais... Bon, Juni, magnifique. On avait Greg Coupé qui venait souvent voir les matchs du Loup quand moi j'étais petit et donc on le voyait dans les gradins. Donc forcément, on pensait souvent à lui. Mais bizarrement, celui que j'appréciais le plus, c'était Kim Karlström, le Suédois qui jouait au milieu.
Okay.
Et je sais pas pourquoi. Ce
pied gauche.
Ce joueur, il m'a marqué et ouais, c'était celui que je préférais. Et donc, pour finir un peu sur l'anecdote football, je te disais que quand j'étais plus jeune, avec mon frère, on allait voir les matchs de Ligue des Champions à Gerland avec mon grand-père, mon père et tout ça. Et tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément ému la première fois où nous, avec Loulou Rugby, on est passé à Gerland, qui est devenu notre stade, en fait, qui est devenu notre enceinte. Et à chaque fois, j'ai cette chance-là aujourd'hui, c'est de pouvoir m'entraîner des fois tout seul sur Gerland, tu vois, sur mes jours off, comme ça. Et je me retrouve au milieu de la pelouse et au milieu de ce stade qui est mythique pour tous les Lyonnais, mais je pense de manière générale pour tous ceux qui aiment un peu le football et le sport en général. Et je me dis, ouais, j'ai de la chance parce qu'il y a une dizaine d'années, j'étais dans les tribunes avec toute ma famille en train de regarder ces mecs-là, Juni, Chris, tout ça qui était sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est un peu moi, quoi. Donc ça, c'est énorme.
Ça fait plaisir. Puis il y a une sacrée ambiance. Ça fait un petit moment que j'aimerais bien, tu vois, aller vous voir jouer, tu vois. Faut que je trouve le temps, mais je vais demander à Gwen de m'inviter, de s'organiser un petit week-end là. Mais en tout cas, il y a une sacrée ambiance et il y a une belle ferveur. Et c'est vrai que dans ce stade, il se passe des choses. C'est quoi c'était quand le premier match que vous avez fait à Gerland?
Eh ben, c'était vers 2017. C'était au début janvier 2017, il me semble.
Ouais, donc c'est au même moment où l'équipe lyonnaise migre sur le Groupama Stadium.
Exactement. Ou un an après.
Un an après. Ok. Et ça, ouais, ça faisait quoi du coup de rentrer sur la pelouse à ce moment-là?
Ouais, non, mais c'était exceptionnel. Et pour la petite anecdote, tu vois, moi, le premier match que j'ai joué à Gerland, je l'ai joué avec un maillot de l'OL sous mon maillot du loup. Et donc, si tu veux, on avait gagné le match. Et après le match, on avait fait une photo d'équipe et j'avais enlevé le maillot du loup et j'avais le maillot de l'OL. Et moi, j'étais trop fier parce que c'est ce que je te dis, c'est plein d'émotions que j'avais vécues avec ma famille auparavant. Et tu vois, même rien que d'en parler, ça me rappelle de beaux souvenirs.
Il y a des footeux avec qui t'as créé des amitiés ou que t'as rencontré, avec qui tu t'entends bien, tu partages des moments?
On a croisé quelques joueurs de l'OL, forcément. Moi, je gardais de bonnes relations avec Anthony Lopez, qu'on se voit régulièrement. Voilà,
super garçon aussi, ouais.
Super garçon, puis en fait, finalement, je pense que les gardiens, ils se rapprochent un peu de la mentalité que les rugbymen ont. Ils ont un peu le même style de jeu parce qu'ils sont souvent amenés à être dans la confrontation, ils doivent aller au contact, au combat. Pareil, ils doivent rester concentrés tout le match, donc c'est quand même assez spécifique comme poste, mais en l'occurrence, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de notre métier à nous.
Ok, d'accord, ouais, ok. Bon, bah écoute, je vais proposer à Anthony, tiens, de passer sur le podcast. J'aimerais vraiment bien, parce que pour le coup, lui, c'est aussi c'est un garçon du cru. Et c'était une question que je voulais te poser. Tu vois, c'est. Alors, dans le rugby, ça reste courant, tu vois, de faire toute sa carrière, de voir des joueurs qui restent, qui arrivent avec les poussins presque, et qui font le centre de formation et qui passent en pro et tout. Dans d'autres sports, ça se voit de moins en moins. Toi, c'est un truc que t'avais envie de faire. Si tu t'es dit, ouais, ça serait toute ma carrière là-bas, ou est-ce que c'est un peu par la force des choses aussi, puis j'imagine que tu t'autorises peut-être à bouger et de voir d'autres choses en fin de carrière, mais toi, c'est quoi ton attachement particulier que tu peux avoir avec le loup?
Bon, déjà, la première chose, voilà, moi j'ai 26 ans, je pense que j'ai encore quelques années de carrière devant moi, donc c'est dur de se dire, bah, je vais me projeter sur les 8-10 prochaines années et je serai toujours à Lyon. Honnêtement, j'en sais rien. Maintenant, mon attachement avec le club et la ville de Lyon, bah, il est hyper important et ça, je l'ai jamais caché. Aujourd'hui, c'est une grosse partie de ma vie. J'ai commencé depuis que j'ai 6 ans à jouer pour ce club et ses couleurs. Donc forcément, aujourd'hui, ça compte dans ma réflexion et dans mes perspectives de carrière, c'est évident.
Puis il fait partie des meubles, on veut plus le laisser partir.
Ouais, voilà. Non, mais oui, c'est sûr.
Que ouais, toi, ton attachement aujourd'hui, il est intact et c'est ta deuxième famille peut-être.
Ouais, bah non, mais clairement, c'est quelque chose qui a énormément de valeur à mes yeux. Et aujourd'hui, me projeter dans un autre environnement, c'est délicat. Surtout que moi, je pense que j'ai aussi conscience d'être arrivé, d'avoir franchi l'étape professionnelle dans mon club au bon moment. Parce que à l'époque, c'était Pierre Mignoni qui venait de reprendre le club en tant que manager. Et je pense qu'il a fait franchir au club une étape hyper importante et il a permis au club de monter en top 14. Donc moi, j'ai fait ma première saison avec lui en Pro D2, on est monté en top 14. Ensuite, on s'est installé dans le championnat de première division et puis on a joué les premiers rôles. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper bénéfique dans le développement d'un joueur et pour un début de carrière. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc quelque part, je suis arrivé là au bon moment dans mon club. Et la question de bouger, à un moment, évidemment, elle s'est posée, mais quand tu remets tout en perspective et que tu te dis finalement je joue pour un club qui est capable de gagner le titre, est-ce que ça vaut le coup d'aller jouer ailleurs pour un club qui a les mêmes ambitions? Donc évidemment on n'a pas la même ferveur que des clubs qui sont vraiment rugby, j'ai envie de te parler de ceux qui sont dans le sud-ouest ou d'autres, hein. Mais on est là, je pense que tous les ans on se bat pour le titre et moi je sais qu'à mes yeux ça aurait beaucoup plus de valeur de gagner un titre avec le Loup que de le gagner avec n'importe quel autre club de top 14, surtout sachant qu'on est en capacité de le faire.
Ouais, bien sûr. Hein. Puis on voit toute une équipe qui est montrée en puissance là depuis 7-8 ans. Donc ça fait rêver quoi. On aimerait. Ça vous venait de challenger. Et pourtant, c'est marrant parce que tu vois, sur votre passage justement en top 14 à l'époque, alors je vais pas faire mon mauvais journaliste, mais il n'y a pas beaucoup de. Même si Pierre effectivement faisait un travail fantastique, il n'y a pas beaucoup de journalistes ou d'experts qui auraient mis une pièce, tu vois, pour vous voir arriver en Challenge Cup, tu vois, et vous voir jouer aussi des belles places en compétition européenne, quoi. Donc,
oui, c'est vrai. Après, il faut remettre les choses dans le contexte. Je pense qu'on a le propriétaire et les actionnaires du club ont aussi mis l'argent et les finances nécessaires pour bâtir une belle équipe et un beau club. Aujourd'hui, je pense qu'en termes d'infrastructure et de tout ce qu'il y a autour du club, on est une des entités qui pèse le plus en top 14. Et ça, je pense aussi, ça nous a permis de bâtir une vraie équipe costaud en championnat. Donc voilà, après l'arrivée de Pierre, ça nous a fait franchir un cap sur le plan sportif. Ça, c'est indéniable. Et tout ce qu'il a su construire, il a su emmener des très grand joueur au sein de son projet et ça, c'est vrai que ça nous a permis de franchir un cap et je pense qu'il est pour beaucoup au fait qu'on joue aujourd'hui, qu'on soit considéré comme une bonne équipe de top 14.
Ouais, ouais, puis ça donne envie de rester en fait quand t'as ce contexte-là.
C'est ça, c'est que
t'es avec les meilleurs, alors pourquoi changer quoi. Donc,
oui, t'es avec les meilleurs. Je sais pas si on est les meilleurs, mais en tout cas, on est une équipe très compétitive, on est en capacité de gagner le titre et ça, si tu me vends la même chose dans un autre club. Alors que j'ai ça dans mon club de cœur et pour qui je me bats depuis 20 ans maintenant, le choix finalement il est vite fait. Je préfère rester à Lyon et défendre les couleurs de ma famille, ma ville et mes amis, quoi. C'est vite vu.
Ok. Première petite question un peu glissade, parce que avec de mes copains rugbyman, parce que vu qu'on parle de Pierre, alors pour les gens qui ne connaissent pas Pierre Mignoni, c'est quand même, il est connu pour être quand même assez très chaleureux déjà quand même, mais aussi parfois un peu dur avec ses joueurs et il peut mettre des petits tampons. Toi, est-ce que je sais pas, il y a une phrase qui t'a dit, qui t'a un peu marqué, et qui t'a fait un peu raser les murs
Ah, il y en a un paquet. Hein.
On veut si jamais il y en a une, tu vois, que tu pourrais sortir, ça serait laquelle?
Non, Il y en a un paquet. J'ai eu beaucoup de. On a vécu beaucoup d'années avec Pierre et avant toute chose, même si c'est quelqu'un qui est très, très dur et raide, j'ai envie de dire, avec ses joueurs, bah, c'est quelqu'un qui est hyper attachant et avec nous, il avait presque une relation un peu paternelle sur tous les joueurs qu'il a formés et qu'il a fait éclore en quelque sorte au loup. Donc, bah, vraiment, c'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance et qui nous a apporté énormément de belles choses, nous individuellement, qui nous a toujours protégés surtout. Après, oui, il était dur, mais je pense que c'est aussi le rôle d'un manager, et surtout avec son style de management, de temps en temps, il était très dur et on avait du mal à le cerner, à comprendre ce qu'il mettait dans ses états. Et bon, j'ai le souvenir d'un match, c'était une de mes premières rencontres en top 14, on venait de monter et on perdait 2 points à la maison face à Castres. Et dernière action, on a une pénalité à 50 mètres. Moi, j'étais tout feu follet à l'époque et j'ai joué le ballon rapidement. Au lieu d'aller taper en touche ou de tenter les points, j'ai joué le ballon rapidement et 20 mètres plus loin, on a perdu le ballon. Et là, je me rappelle que j'avais pris une secousse monumentale dans le vestiaire et j'avais eu le malheur de dire un oui, mais ou je sais pas quoi. Et là, j'avais pris une secousse. Je me rappelle que les jours d'après, je faisais pas le fier, je faisais tout pour pas le croiser dans l'enceinte du centre d'entraînement. Donc voilà, après c'est des choses qui te marquent mais qui forgent aussi ton caractère. Moi je pense que Pierre, il nous a aussi permis de grandir en tant qu'humain, en tant que joueur, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on a, en quelque sorte, parce qu'on est plusieurs dans ce cas-là, on a un peu pris les rênes aussi du club et de notre équipe, et ça, c'est, je pense que ça a été hyper formateur pour nous.
Bien sûr. Est-ce que tu penses que justement un entraîneur aussi, un bon entraîneur, il va être un peu plus exigeant, tu vois, justement avec les joueurs clés? Tu vois, et forcément, demi-mêlée, demi-ouverture. Enfin, vous êtes tous clés dans l'équipe, tu vois. Mais il y a quand même quelques postes sur lesquels y a des choix stratégiques très importants qui peuvent faire complètement tourner un match. C'est pas, tu vois, une mauvaise passe ou un en avant ou, tu vois, un plaquage raté. Tu vois, c'est vraiment des choix un peu que tu dois faire de façon lucide. Et du coup, est-ce que tu penses que ça fait partie aussi de l'entraîneur de, des fois, être un peu plus exigeant avec ses mots, tu vois, justement avec ses postes clés, parce que c'est, faut que les messages sur la stratégie, elles passent, quoi, tu vois.
Bah, c'est sûr qu'il y a certains postes clés où la dimension stratégique, elle est trop importante pour que on n'y accorde pas beaucoup d'importance. Je pense que la faculté de Pierre, ou avec nous, il a su très bien gérer à ce moment-là, c'est que finalement, il était très très exigeant avec nous quand ça se passait bien et qu'on disait du bien de nous. Donc là, lui, il faisait attention à ce que justement, il laisse rien passer et que tout ce qu'on ait un peu mal fait, il le corrige. Et à contrario, quand il sentait qu'on était un peu en difficulté, qu'on était un peu sous le feu des critiques, parce que c'est arrivé, hein, c'était fréquent que quand t'enchaînes 2-3 matchs d'affilée où t'es moins bon, tout le monde te remette un peu en question, et ben lui, à chaque fois, il était là pour nous soutenir, mais pas que nous individuellement, même aux yeux du groupe, il faisait en sorte qu'on reprenne un peu de la valeur et qu'on garde cette légitimité qui, je pense, quand on est jeune et qu'on joue à des postes clés, est très importante, en fait. Finalement, moi, le pire que je ressens parfois, c'est de me questionner sur ma légitimité, tu vois, dans le groupe, de me dire, ben, ok, à ce moment-là, je dois endosser le rôle de leader, mais sur le terrain, je fais pas le nécessaire pour avoir ces responsabilités-là. Et lui, il avait cette faculté à nous remettre le pied à l'étrier et dire, bah si, enfin c'est bon, t'as les cartes en main et tu peux croire en toi, quoi, finalement. Et ça, c'était quelque chose qui pesait dans nos têtes, je pense. Et en tout cas, dans la mienne, ça a fait écho. Et aujourd'hui, ça m'a permis aussi d'évoluer à ce niveau-là.
Ouais, si je dis pas de bêtises, je crois que t'as été capitaine du Loup dès 20 ans, 21 ans, la première fois.
C'est ça, ouais, j'ai été capitaine à partir de 20 ans. Voilà, ça c'était, par exemple, c'était le reflet du management de Pierre aussi. Je pense qu'il a voulu aussi permettre à l'équipe de se responsabiliser en nommant des capitaines jeunes. Parce qu'à l'époque, j'étais capitaine avec Félix Lambet, bah, qui était aussi, qui suivait un peu la même trajectoire que moi. Et donc, on était des jeunes issus de la formation et on devait un peu amener tous les anciens qui jouaient avec nous.
Ouais, c'est pas facile, hein, en plus.
Ça n'a pas été évident parce que finalement, il y avait ce souci de légitimité. Moi, en 2019, j'ai eu une longue blessure qui m'a éloigné longtemps des terrains. Et j'ai mis du temps avant de retrouver le niveau qui était le mien avant la blessure. Et c'est à ce moment-là que je suis passé capitaine. Et donc forcément, c'est ce que je te dis, c'est que c'est dur de devoir assumer autant de responsabilités quand ton niveau sur le terrain, il est pas fidèle aux attentes que tu en as en fait. Et moi j'ai eu du mal à assumer ses responsabilités au début. Après petit à petit j'ai su prendre un peu de la hauteur et accepter ce rôle un peu différemment. Mais pour moi ça a été un vrai challenge. Ça a été un vrai challenge et c'est pour ça que il y a eu un moment où je me suis dit bah peut-être que c'est important que je me recentre aussi sur moi-même et sur mon jeu. Et c'est là que je serai plus bénéfique à l'équipe. Et en l'occurrence, je pense que ça m'a fait du bien. Tu vois, les 2-3 dernières saisons que j'ai jouées, je me suis senti beaucoup plus à l'aise en prenant un peu de hauteur par rapport à ce titre de capitaine. Mais pour autant, je suis resté un leader parce que je pense que c'est ma nature de ne bah, voilà, de pas accepter certaines choses et de vouloir amener le groupe à progresser continuellement. Donc, je l'ai fait naturellement, mais j'avais plus ce titre de capitaine ces derniers temps ou alors occasionnellement et ça m'allait beaucoup mieux. Et peut-être que je serais amené à redevenir capitaine à l'avenir, tu vois, mais je pense que c'est des choses qui doivent se faire naturellement et on ne doit pas forcément forcer le destin.
Ouais, exactement, ça doit être très naturel en tout cas. Si c'est forcé, c'est que c'est pas forcément la bonne chose pour l'équipe. C'est vrai que pour les non-rugbyman, ils se rendent peut-être pas compte de effectivement l'importance de ce brassard de capitaine, tu vois, qui est, pour moi, c'est dans le rugby, pour moi, c'est le sport dans lequel c'est le plus important, tu vois. Parce que ouais, il y a des choix stratégiques très nombreux à faire, plus que peut-être sur d'autres sports. En tout cas, moi, ça me semble. Mais...
Comme je l'analyse en plus, tu sais, il y a aussi cette dimension physique et de combat qui est quand même difficile à retranscrire pour un joueur, en tout cas qui joue à mon poste, et d'un si jeune âge. Si tu veux, moi, quand j'ai commencé à être capitaine, j'avais 20 ans, je jouais demi de mêlée, j'étais taillé comme ça, tout frêle, et tu me demandais d'aller expliquer... à Julien Bonner qui avait 70 sélections en équipe de France, bah, qu'il faut qu'il aille mettre le museau dans tous les rucks pour faire mal aux adversaires. Et tu vois, ça, c'est des choses qui ont quand même du mal à sortir quand t'es jeune. Bah, il revient toujours à la question de la légitimité. C'est délicat de se projeter et d'avoir ce genre de discours. Alors, t'es pas obligé de le faire. Mais quand même, mine de rien, c'est ce que je te dis. Nous, il y a une dimension de combat qui est tellement importante que quelque part, t'es un peu obligé de l'évoquer avant un match, quoi. Donc, c'est difficile.
Ouais, mais tu sais, ce que tu dis là, ça me fait penser à une interview que j'ai eue avec Jérôme Fernandez de le handballeur. Et tu vois, on parlait un peu de, tu vois, qu'est-ce qu'a bien réussi cette équipe des experts, parce que ça reste une équipe légendaire, tu vois, en termes de trophées dans leur sport, c'est complètement unique. Et lui, il me disait que ce qu'ils avaient le mieux réussi, c'était justement cette façon d'embarquer un peu les jeunes et de mener même les plus jeunes, tu vois. Parce que lui, tu vois, bah, typiquement, il avait quelques années de plus qu'un Nicolas Kamaravitch. Il était capable de lui dire bah, écoute, c'est pas parce que je suis plus vieux que toi que tu peux pas me mettre un savon, que tu peux pas me dire quand j'ai fait une merde. Et en tout cas, selon lui, selon son œil, tu vois, c'était une des choses qu'ils ont le mieux réussi, quoi. À la fois des anciens, de transmettre cette envie de la gang, cette envie de tout bouffer. Et ça se ressent dans leur équipe. Et en même temps, cette capacité à dire aux jeunes, bon les gars, c'est vous aussi qui allez être champion olympique, qui allez être champion du monde, donc on est tous dans la même équipe et chacun peut dire ou même aux anciens ce qu'ils ont pas bien fait, quoi. Donc ça me fait penser à ça. Comment il était le petit Baptiste à l'école?
Eh ben écoute, j'étais plutôt, je vais pas dire studieux, j'étais plutôt bon élève. Après j'étais un peu dissipé, je pense que c'est mon côté sportif qui parlait. Je bavardais, mais quand même, j'essayais toujours de faire le nécessaire. Et je pense que la chance que j'ai eue, c'était d'avoir une mère qui était un stit aussi. Et donc, elle a toujours insisté sur l'école. Et je pense que même, tu vois, même je vais te raconter une anecdote, c'est que quand j'ai eu mon bac, en fait, c'était mes premières sélections en équipe de France moins de 18. Et les 3 mois qui ont précédé l'épreuve du bac, si tu veux, j'ai été absent 2 mois parce que j'avais participé au championnat d'Europe moins de 18 avec le rugby à 15. Et dans la foulée, j'avais fait les championnats d'Europe moins de 19 avec le rugby à 7. Donc, j'avais été absent 2 mois. Et très clairement, quand j'ai annoncé à ma mère que j'étais sélectionné pour la première fois en équipe de France moins de 18, bon, elle était contente, mais ça lui a fait, j'ai envie de te dire, ni chaud ni froid. À l'inverse, quand je me suis présenté à l'épreuve du bac, elle s'est dit, bah, c'est mort, mon fils, il aura pas le bac parce qu'il a pas été là pendant 3 mois. Et il va pas y arriver. Et je me rappelle que quand je l'ai appelé pour lui dire que j'avais eu mon bac, et ben elle en a pleuré. Et tu vois, ça c'est un message qui a eu du sens aussi dans tout ce que j'ai eu après, parce que à mon avis, ma formation scolaire, elle a eu un vrai impact sur le joueur de rugby que je suis devenu. Et je suis content que elle ait aussi poussé pour que je continue à faire des études, même quand je suis devenu professionnel. Et que voilà, elle a insisté sur cet aspect-là. Donc voilà, c'est toujours des choses qui ont résonné en moi et ça continue de l'être aujourd'hui.
Ouais. Ça devait pas être facile pour elle avec deux garçons qui ont quand même la bougeotte, tu vois, ça se sent un peu, même si vous êtes, tu vois, enfin vous pouvez paraître un peu calme et tout, mais ça se sent quand même que vous avez la bougeotte et que vous avez la déconne facile. Et surtout si vous vous jouiez tout le temps, il y a eu des moments où elle a dû un peu serrer les dents, non, j'imagine. Mais...
Ah bah c'est sûr, ouais.
Ça chamaillait beaucoup avec, avec ton frangin?
Ouais, bah on a très peu d'écart avec mon frère, on a un an et demi d'écart et bah forcément... On a beaucoup, beaucoup joué ensemble. Toujours, il y a eu cette rivalité entre nous parce que, ben, chaque fois qu'on jouait à n'importe quel jeu, il fallait être le meilleur. Donc, ouais, depuis petit, si tu veux, on a toujours été confrontés l'un à l'autre. Et je pense que pour les parents, c'était pas évident de devoir gérer ça au quotidien.
Ouais, ouais, tu m'étonnes pour les. Surtout si, en plus, elle était incitée et qu'elle tenait aux études. Et sur le terrain, t'étais comment jeune comparé à maintenant? En fait, moi, ce qui m'intéresserait de comprendre, c'est en quoi le rugby, ça t'a transformé, tu vois? Comparé. Au Baptiste, tu vois, qui voulait pas mettre les pieds sur un terrain. Peut-être, je sais pas, peut-être que t'avais moins l'esprit d'équipe. Peut-être qu'il y avait des qualités que ont les rugbymans ou des valeurs que t'avais pas. Je serais curieux de savoir lesquelles t'as dû apprendre. Pas forcément dans la douleur, mais tu vois, qui étaient peut-être un peu contre ta nature.
C'est vrai que peut-être, et tu vois, là, on est un peu différent avec mon frère, c'est que lui, il a une faculté d'intégration qui est évidente, tu vois, c'est quelque chose, ils se font facilement dans la masse, ils s'intègrent très rapidement dans un groupe. Moi, j'ai un peu plus de mal aussi à comprendre les autres, enfin, je les comprends, mais disons que j'ai du mal à m'ouvrir, à me projeter rapidement dans un groupe, dans un collectif. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle aujourd'hui, je me sens très bien au Loup, c'est que j'ai l'impression de connaître tout le monde, de maîtriser mon environnement. Et ça, je pense que j'ai mis du temps avant d'arriver à franchir ce palier au rugby parce qu'on a un rapport de proximité qui est plus fort que dans les autres sports parce qu'on partage des moments, j'ai envie de dire intime, mais ce n'est pas ce qui se passe dans les vestiaires, loin de là, hein, mais c'est surtout sur le terrain parce que c'est ce que je te dis, on est obligé, on est confronté à des épreuves, à du combat, c'est rude, donc on est obligé de se rapprocher. Et tu vois, j'ai été obligé de franchir ce palier-là pour me dire ben, « Ok, je me sens bien dans cette équipe et je peux jouer libéré. » Et au final, à partir du moment où j'ai joué libéré, je pense que ça m'a permis de franchir un palier et d'être bon, tout simplement.
Ok, ouais. Ouais, donc tu dirais effectivement cette capacité à être le... Enfin, à t'ouvrir aux autres, tu vois, et à prendre ta place aussi, ouais. Mais c'est vrai que, pour le coup, le rugby, ça reste quand même... Enfin, c'est un sport dans lequel il y a beaucoup de testostérone, quoi. On se demande pas. Moi, j'ai pris, je pense, 10 kilos de muscles, tu vois. Donc, et je sais que j'avais calculé mes taux de testostérone à 19 ans quand j'ai commencé et à 26 quand j'ai arrêté. Et je sais qu'il y avait des différences. Ah, il y avait des différences. Après, peut-être que aussi j'avais un rythme de vie un peu plus sain, peut-être un peu moins de bringues d'école d'ingé, tu vois, ce genre de choses qui nient beaucoup à tout ça. Mais aussi quand tu prends 10 kilos de muscles, je pense que ça le joue aussi, quoi. Et c'est pas facile de s'imposer, de trouver sa place dans une équipe comme ça, tu vois. Dans n'importe quelle équipe, tu vois, c'est toujours ceux qui parlent un peu le plus fort, qu'on écoute le plus ou qui sont un peu les bouts en train, tu vois. Et je trouve que c'est un beau challenge et je pense que toi, tu l'as bien réussi. C'est comment créer un leadership. Pas forcément discret, mais un leadership pas par la force, par l'ultra charisme, mais plutôt un leadership par la sérénité, par tu vois le calme, prendre le temps, tu vois, peut-être en one to one, il y en a peut-être, tu vois, certains qui vont être peut-être très bons, je sais pas pour toi, mais certains joueurs qui vont être très bons pour parler face à toute l'équipe, puis d'autres qui vont être en fait des meilleurs leaders, mais peut-être en one to one, tu vois, tiens, je passais 5 minutes avec lui, 5 minutes avec un tel, et construire un peu, tu vois, cette cohésion comme ça, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais. Après, je pense que le rôle de leader, il est assez spécifique et il se décompose de plein de qualités différentes, tu vois. Et en l'occurrence, moi, je sais pas ce qui fait que je me qualifie même de leader, tu vois. Après,
ton rôle l'impose. Donc
mon rôle, exactement, l'impose et il y a une dimension stratégique qui fait que finalement, je suis un peu obligé d'avoir cet aspect dans mon jeu. Mais quelque part, ouais, je pense qu'il y a différentes caractéristiques, pardon, qui peuvent résonner chez tes coéquipiers et il n'y a pas de bon ou de mauvais leader. Il faut juste savoir le public auquel tu t'adresses et pour être le plus pertinent possible, quoi, finalement.
Ok. Ouais, ouais. On a parlé un petit peu de ton frère. Bon, on a dit que jeune, ça chamaillait un peu et que ça devait être, que ça devait pas toujours être facile à gérer. Là, aujourd'hui, vous avez, je pense, une très belle fraternité, en tout cas, beaucoup d'entraide. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus durs ou un peu plus épicés, comme on pourrait dire? Je te disais en intro, avant qu'on démarre l'enregistrement, je donne un petit peu de contexte aux auditeurs. C'est que moi, avec mon frère, il y a eu des moments qui étaient très compliqués, où il y avait un peu de jalousie, notamment dans le sport. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux, ça évolue avec les âges. Et du coup, je suis toujours curieux de savoir, tu vois, avec des athlètes, comment est-ce qu'ils ont réussi un peu à trouver leur équilibre. Parce je pense qu'en vrai, tous les duos de frères, ou même les triplés de frères, ou les quadruplés, tu vois, y a toujours des moments où, notamment à l'adolescence, où c'est dur de trouver un peu sa place, tu vois, et de construire le duo.
Bah, je pense que t'as totalement raison. Nous, on est passé par des moments où finalement on n'était pas si proche que ça quand on vivait à Lyon tous les deux. Enfin, on n'était pas si proche. On a toujours eu une relation fraternelle assez forte, mais on partageait peu de choses. Et finalement, ça a été très difficile la période où on a commencé nos études supérieures, où on jouait vraiment au rugby plus que pour le plaisir, si tu veux, parce que on s'est retrouvé à faire exactement la même chose. À l'époque, moi, je venais de rentrer à l'IUT en génie civil à Villeurbanne, et mon frère a suivi le même cursus 2 ans après. Et pareil, je venais de commencer ma carrière professionnelle, et c'est à ce moment-là que mon frère a commencé à s'entraîner avec les professionnels à Lyon, et il se trouve qu'on jouait exactement au même poste. Et donc, si tu veux, on s'est retrouvé à faire les mêmes études. Moi, j'ai pris du retard dans mes études parce que je jouais avec les pros. Donc, on s'est retrouvé dans la même classe à un moment avec mon frère, à faire les mêmes études
sur le terrain,
et à faire la même chose sur le terrain au rugby. Et donc, si tu veux, ça a été très difficile à ce moment-là parce qu'on a été tout le temps comparés l'un à l'autre. Ah ouais, il y a eu tout le temps, en fait, ce comparatif qui a été fait. Et je pense que ça a été délicat à gérer, mais pour les deux, en fait, parce que pour lui, à mon avis, c'était compliqué parce que moi, j'ai eu une progression assez rapide et j'ai commencé à jouer en pro très jeune. J'ai été sélectionné en équipe de France à 20 ans, j'ai été capitaine du club assez jeune aussi. Tandis que lui, il a mis plus de temps à éclore. Donc déjà, sur l'aspect rugby, c'était compliqué. Puis c'était un peu pareil dans les études. Moi, j'étais souvent pris en exemple et lui, il était un peu plus dissipé. Donc finalement, ça a été très délicat à gérer. Mais quelque part, même pour moi, c'était dur parce que j'avais toujours envie de faire le nécessaire pour que mon frère, il performe et qu'il ne soit pas critiqué, en fait, si tu veux. Et je me rappelle des entraînements, les premières fois où il montait s'entraîner avec les pros, il était très jeune, hein, et c'était ses tout premiers entraînements. Et ben moi, je jouais en face de lui, mais je lui disais, quand ils annonçaient une combinaison, je lui disais ce qu'il fallait qu'il fasse pour ne pas se tromper, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je lui disais, là, il faut que tu envoies pour le numéro 12, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et en fait, je me perdais complètement parce que moi, j'étais en train de jouer, mais pour mon frère, tu vois, parce que je ne voulais pas qu'il se fasse critiquer. Et ça m'affectait trop de voir que quand il ratait un truc, l'entraîneur, il l'engueulait. À ce moment-là, je pense que ça a été difficile.
Ça te touchait toi, personnellement?
Ouais, ça me touchait moi parce que j'avais la sensation que je devais, tu vois, je devais aussi prendre soin de mon frère dans un truc où moi-même j'étais encore en phase de progression et c'était très délicat. Et finalement, tu vois, quand il a eu 20 ans, s'est posé la question de, ou 19 ou 20 ans, il s'est posé la question de partir parce qu'il a eu une offre à Biarritz. Et finalement, moi je l'ai encouragé à aller jouer à Biarritz. À ce moment-là, il n'avait jamais joué avec les professionnels, il faisait que s'entraîner. Et mes parents, ils n'étaient pas vraiment pour parce que forcément, il avait...
Encore jeune.
Ouais. Il n'y avait aucune certitude qu'il réussisse dans le rugby et qu'il obtienne un contrat professionnel. Donc, il fallait qu'il traverse la France pour aller jouer au rugby. Et ils n'étaient pas vraiment pour. Mais moi, je me suis dit, l'opportunité, elle est énorme. Et puis finalement, peut-être que ça va nous libérer tous les deux. Et il se trouve que à partir du moment où il est parti, lui, je pense qu'il a pris conscience aussi qu'il prenait sa carrière de sportif.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sa vie de manière générale en main, et il a très bien réussi à Biarritz, il a fait plus d'une centaine de matchs en professionnel. C'est quelque chose qui m'a rendu très très heureux et très fier finalement, et c'est là où on s'est vraiment rapproché. Tu vois, moi j'ai eu une relation complètement différente avec mon frère à partir du moment où il est parti, et je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin de lui et je pense qu'il avait aussi besoin de moi et on a beaucoup échangé, tu vois, sur le rugby, sur l'aspect stratégique, tu vois, pour se donner des conseils. On s'est beaucoup encouragé, on s'envoie toujours un message avant les matchs. Et vraiment, je pense que notre relation, elle a évolué à partir du moment où il est parti. Et ça nous a fait du bien, je pense, ça nous a fait du bien.
Ouais. Ouais, il y a un moment où, je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi je le dirais comme ça, c'est tu deviens plus le grand frère, t'es juste le frère. Il n'y a plus quelqu'un dans ton sillage que tu as besoin de tirer vers le haut ou de prendre soin, tu vois. Et juste ton frère, il prend son envol et du coup, tu deviens de plus en plus d'égal à égal. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Je ne sais pas pour vous, mais tel que je l'entends.
Ouais, bah, malgré tout, nous, on est toujours, toujours comparés parce qu'aujourd'hui, médiatiquement, on est exposés. Et si tu veux, on fait la même chose encore d'un point de vue rugbystique, on joue au même poste. Et donc évidemment, il y a tout le temps cet élément de comparaison qui rentre en compte. Mais nous, entre nous, je pense que ça nous gêne moins aujourd'hui. Tu vois, ça nous gêne beaucoup moins. Et moi, je suis hyper content du joueur que mon frère est devenu. Et je pense inversement, tu vois. Donc ça se passe très bien entre nous. Non, on est très contents. Et l'année dernière, on a été amené à jouer l'un contre l'autre. Et ça a été aussi
C'était
la première fois. Dans notre carrière, on a joué une fois l'un contre l'autre parce que mon frère a majoritairement joué en deuxième division, pardon. Et il y a 2 ans, ils sont montés avec Biarritz et donc ils ont fait leur saison en top 14. Et là, on a joué l'un contre l'autre une fois à Biarritz. Et donc, pour notre famille, ça a été vraiment un événement génial, quoi. Tout le monde était présent et c'était énorme.
Ils avaient quel maillot, du coup, papa et maman?
Bah, c'est ça qui était dur. C'est que, ma grand-mère, je me rappelle que ma grand-mère, elle m'appelait avant le match, elle me disait « Tu sais de quelle couleur tu vas jouer ? Parce que j'aimerais savoir comment je vais m'habiller, je vais mettre un peu de noir et rouge pour toi et un peu de rouge et blanc pour ton frère, je sais pas trop. » Bon, bref, il y a eu toutes ces choses-là et donc c'était génial. Mais moi, je me rappelle que ce match-là, il a été vraiment hyper important pour moi, en fait. Parce que, bon, pour toute la famille, mais moi, c'était au début de la saison, c'était le 5e match, j'avais commencé les 4 premiers. Et j'arrive la semaine où on joue contre Biarritz. Et là, mon coach, à l'époque, Pierre Minoni, il me dit « Ouais, je vais te mettre remplaçant ce week-end. » Et je lui ai dit « C'est hors des questions, je joue. » Comme ça. Et je suis parti. Et donc,
Pourquoi tu lui dis ça ? Tu lui dis ça parce que tu veux jouer contre ton frère ?
Ouais, bah en fait, c'est fou. Ce début de saison-là, moi, j'avais qu'une date en tête. C'était le match de Biarritz. Je me suis dit « C'est un match qui est trop important pour moi, pour ma famille, pour que je le rate. » Et quand je suis arrivé dans son bureau, c'était un lundi matin, et il m'a dit « Tu seras remplaçant ?» J'ai dit « Non, je joue. » Et donc, j'ai passé ma semaine. Toute la semaine, bon, il y a eu un petit emballement médiatique par rapport à notre confrontation, mais assez léger. Et moi, je me suis dit « Ce match-là, je ne peux pas passer à côté, en fait. » Et la nuit d'avant, on était à l'hôtel à Bayonne, à côté. Impossible de trouver le sommeil. Tu vois, jusqu'à 4h du matin, j'étais dans ma chambre, je cogitais. Parce que je ne vais pas dire que ça résonnait comme une finale de championnat de France, mais pour moi... Tu vois, j'avais cette pression un peu du grand frère qui se disait « Demain, je ne peux pas passer à côté, je ne peux pas perdre. » Et le lendemain…
Ah ouais, donc tu te disais ça quand même.
Ah ouais, moi, c'était interdit.
Il fallait gagner.
J'avais remonté tout le monde avant le match et il y a une image qui était sortie parce que moi, j'étais capitaine à ce match-là et ils avaient fait sortir mon frère en premier dans la ligne, tu vois. Et il me tape dans la main juste avant de… On était tous les deux face caméra, en fait, et il me tape dans la main avant de commencer le match, et moi je le regarde mais avec un regard méchant, mais pas parce que j'avais la haine, mais j'étais juste hyper concentré, et ce match-là je l'avais en tête depuis super longtemps, et je me suis dit je peux pas passer à côté. Et tout le match, tout le début du match, je faisais n'importe quoi, en fait. Et je lui sautais dessus de partout, tu vois, j'essayais de pas lui laisser une seconde pour qu'il puisse bouger, et je te dis, j'avais un peu cette pression. Et on est rentré à la mi-temps et il y a deux, trois coéquipiers à moi qui m'ont dit « Mais calme-toi, tu vois, ça va bien se passer. » Je me rappelle que je gaspillais une énergie folle, tu vois, à juste me dire « Faut pas que je laisse une brèche à mon frère, tu vois. »
Ouais, mais c'est dur exercice en tout cas.
Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur, bon, il s'avère que…
Vous en avez parlé un peu après?
On en a parlé, il s'avère que le match s'était passé d'une façon assez particulière parce qu'on avait gagné le match… Assez facilement, au final c'était très bien passé pour moi, j'avais marqué 3 essais à ce match-là. J'ai senti que ça l'avait affecté, tu vois, finalement, parce que, tu sais, il y avait eu beaucoup d'emballements médiatiques autour de sa personne pour ce match-là, Et tu vois, il avait été critiqué après dans les vestiaires parce que peut-être, ils avaient eu la sensation qu'il avait pensé un peu trop à lui. Donc, c'était compliqué. Et je te dis, ça avait laissé un peu un goût amer à toute la famille, le fait que le match, il se déroule comme ça. Tu vois, moi, je suis sorti du match. Il y avait donc toute la famille qui était dans les tribunes et je vais faire la bise à ma grand-mère et elle me dit, mais pourquoi vous avez gagné comme ça? T'aurais pas pu laisser marquer ton frère un peu? Tu vois, et elle me dit ça. Et tu sais, moi, je dis, quand même, tu vois. Mais ouais, tout le monde était à la fois content parce que moi j'avais gagné, mais surtout déçu parce que finalement ça a été un match à sens unique et il savait que mon frère il avait été un peu critiqué, donc c'était dur à ce moment-là.
Il aura sa revanche.
Au final, c'était génial, c'était un super moment pour notre famille, on en avait vraiment profité, c'est cool. J'espère qu'on aura l'occasion de le revivre un jour ou l'autre.
Bah écoute, je vous le souhaite, franchement ça doit être sympa à vivre. Puis ouais, il aura forcément sa revanche, c'est sûr.
C'est sûr. Je ne laisserai pas gagner pour autant.
les rendez-vous sont pris, ouais. Mais pas facile en tout cas, ouais. Et puis j'imagine aussi que ouais, du point de vue des autres, les autres, enfin tes coéquipiers, ils se posent beaucoup la question de comment est-ce que tu gères toi émotionnellement le truc, quoi. Donc tu as aussi une énergie, je trouve, je sais pas comment tu l'as vécu, mais ouais, une énergie de tes coéquipiers qui se posent des questions pour savoir un peu ton état psychologique, quoi, forcément, que ce soit avant ou après ou pendant le match, quoi.
Tout le monde savait que c'était très important pour moi de jouer ce match là et d'affronter mon frère, et je pense qu'en fait finalement ça s'est ressenti dès le début du match. Je te dis, à partir du moment où je suis sorti dans le couloir, c'était hors de question qu'on perde, et j'avais bien fait passer le message à ce moment là et heureusement j'avais été suivi, tu vois. Je suis content, c'était bien passé. Maintenant après, c'est ouais, ça aurait pu être l'inverse, c'est, je sais pas, c'est pour moi, c'est... je me suis pas posé la question parce que je savais que c'était interdit de perdre et de passer à côté de ce match.
Ouais, puis c'est le sport, ça pourra changer. Tu disais que vous vous appeliez, vous donnez des conseils. J'ai curieux de savoir, deux trois échanges là que vous avez eu récemment pour clore un peu le sujet, comprendre un peu comment est-ce que vous tirez les vers le haut, quoi, concrètement. Est-ce que c'est peut-être plutôt un peu technique? Est-ce que tu vas regarder des images de lui? Est-ce que tu lui fais un feedback sur ses matchs ou pas? Ou est-ce que c'est plutôt quand lui vient te voir et te demande? Ou sur quel sujet vous vous tirez vers le haut?
Maintenant qu'on grandit un petit peu, je vais être honnête, on se parle moins de technique, de tout ce qui est purement rugby. En fait, on parle globalement de stratégie, mais surtout aussi de comment ça se passe dans le club, de ce qui est mis en place, tu vois, de ces différentes choses. Là, il vient de signer à Grenoble, tu vois, donc il vient de changer d'environnement, de staff, d'équipe aussi. Et tu vois, on discute beaucoup de comment ça se passe, de ce qui est mis en place dans leur structure, de tout ce qui est, je sais pas comment dire, mais organisationnel et sur le rugby, ce qui est stratégique, quoi, en fait. Donc, c'est moins pointu que les échanges qu'on avait à l'époque, mais on est souvent en contact quand même, tu vois. Hier, on s'est écrit, justement, je lui ai demandé comment ça se passait avec son nouveau staff, ce qu'il mettait en place, et tu vois, on a beaucoup échangé par rapport à ça. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on connaissait au début,
ouais. Ouais, vous avez pris de la hauteur. Vous êtes plus les deux enfants passionnés par la technique et qui peuvent geeker entre guillemets sur des vidéos pour voir le moindre geste qui peut faire la différence et que.
Ouais, puis je pense aussi que tu vois,
votre rôle a évolué.
Voilà, on a grandi et maintenant mon frère, c'est un joueur assez accompli et il se débrouille super bien aussi sans moi. Il a des qualités différentes des miennes et tu vois, j'ai pas envie de te dire, je me permettrai plus de lui faire des réflexions par rapport à son jeu. Parce que je le fais de temps en temps, mais pas sur l'aspect rugby finalement, tu vois, c'est plus sur l'attitude ou sur quelques remarques générales. Mais sinon, sur le rugby, c'est un très bon joueur, il fait très bien son boulot et voilà quoi.
Bah ouais, c'est clair. Bah écoute, je me permets de te demander l'autorisation de faire une petite interview croisée et de pouvoir l'avoir au micro, ça serait cool ici de pouvoir un peu confronter. Il y avait une question que je voulais quand même te poser parce que j'ai pas eu l'occasion de la poser aux autres rugbyman que j'ai rencontrés. Et toi, je me suis dit, tiens, le souvenir, il est peut-être un peu plus frais dans ta tête. Qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on met le maillot de l'équipe de France sur les épaules? Tu te souviens de la journée, de tout, et t'as bien dormi ce jour-là?
Non, ça aussi, c'est des choses qui évoluent avec le temps. Moi, je me souviens que quand j'ai démarré ma carrière professionnelle, j'avais énormément de mal à vivre l'éveil de match. Je dormais très mal. Des fois, j'arrivais à pas fermer l'œil. Je ressentais beaucoup de pression, en fait, parce que je savais que j'allais être jugé. Et en équipe de France, c'était un peu pareil. Et la difficulté à cette époque-là, c'est qu'on n'était pas très dominateur. Donc, on était très critiqué dans la presse. Avant la précédente Coupe du Monde. Et donc forcément, c'était pas évident à gérer, mais bon, à l'époque, j'ai envie de te dire, c'était presque quelque chose qui rendait les débuts faciles, parce que tu disais, si je fais une bonne performance, ce sera bien analysé, et tu vois, de sortir un peu du lot dans une équipe qui est un peu en difficulté, ça peut être bénéfique. Mais
vous aviez la pression, franchement, hein, ouais, parce que effectivement, tu vois, les quelques années avant avaient été un peu compliquées au niveau résultat, même s'il y avait une très très belle équipe, mais au niveau résultat, c'était en dents de scie, tu vois. Moi, je me souviens, sur les jeunes, il y avait beaucoup d'attentes, tu vois, sur, tiens, cette nouvelle génération, est-ce que, machin. Et c'était pas facile à gérer, quoi. Surtout que vous aviez gagné pas mal de titres en junior, il me semble.
Eh ben non, à cette époque-là, pas encore. C'est surtout après.
C'est après. Okay.
Moi, c'était en 2018 que je fais ma première sélection. Et ouais, tu vois, on était, comme tu dis, il y avait une super équipe, mais au niveau des résultats, on était en difficulté. Et toujours sous le feu des critiques, c'était délicat de démarrer dans ces conditions-là. Mais ouais, je me souviens, mon premier match, c'était au Vélodrome face à l'Italie. Donc un stade à moitié vide. Tu vois, il n'y avait pas l'engouement du tout, le même que celui qu'il y a aujourd'hui. Peut-être que c'était plus facile de démarrer dans ces conditions. On avait gagné. Et voilà, je me rappelle que c'était une émotion folle pour moi, personnellement. Mais à ce moment-là, en équipe de France, c'était quand même délicat. Tu vois, et j'ai ce souvenir-là. Aujourd'hui, quand je compare à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est complètement différent, pour différentes raisons, mais c'est complètement différent. Alors moi, j'en garde des super souvenirs, mais d'un point de vue collectif, c'est quand même un peu... Ça a évolué, vraiment.
Ouais, bah j'imagine. Pas trop déçu d'avoir commencé au Vélodrome ?
Non, à ce moment-là, pas du tout. Et puis finalement, tu vois, le Vélodrome, c'est un stade qui me réussit. J'ai eu l'occasion d'y rejouer une fois. Après, c'était pour la finale de Coupe d'Europe, de petite Coupe d'Europe l'année dernière. On avait été champion avec Lyon, donc c'est quand même toujours des bons souvenirs là-bas.
Ouais, j'imagine. C'est pour ça que je te titillais. Et ça fait bizarre aux Marseillais d'avoir Lyon qui est champion d'Europe dans son stade. Petite dernière question, rugby, et puis après j'aimerais parler un petit peu de l'extra sportif pour terminer. S'il devait y avoir un essai que tu retiens de la carrière, que tu pourrais nous le raconter pour les moins amateurs de rugby que nous, lequel tu garderais qui t'a marqué le plus? On t'a mentionné les trois face à Biarritz et ton frangin, j'imagine que ça devait être quelque chose, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres qui ont eu une saveur?
Il y en a d'autres, je pense que il y en a deux qui marquent. C'est un des premiers, ça devait être mon deuxième en pro. On joue à Narbonne sous une pluie battante, on était en pro D2 à l'époque. Pareil, j'avais 18 ans, je commençais à peine et j'avais la pression, mais un truc de fou. Et je faisais n'importe quoi sur le terrain. En fait, j'étais un peu trop fougueux et je faisais un peu n'importe quoi, mais j'avais des qualités et j'arrivais toujours à m'en sortir avec mes qualités. Et je me rappelle d'un essai où, en fait, on fait un maul sur touche sur nos 22 mètres et le maul s'effondre et je prends le ballon et je pars côté fermé et je traverse le terrain. Je vais marquer comme ça. Mais tout au long de ma course, je cherche à droite à gauche, alors qu'il n'y a personne en face de moi presque, mais parce que je n'arrivais pas à me rendre compte que j'étais capable de faire ça presque. Et tu vois, je marque, et cet essai-là, il m'a marqué parce que ça avait été celui qui m'a un peu permis de me lancer, on va dire, et de faire comprendre que ouais, j'étais capable aussi de choses intéressantes, et ça m'avait un peu lancé. Et sinon, plus récemment, bah, j'ai marqué, ça tombe bien, c'était mon 50e essai avec le club là. Et c'était un match pourri. On recevait Perpignan à la maison. Enfin, je veux dire, c'était un match pourri parce qu'on faisait une performance vraiment pas bonne, quoi. Perpignan, ils étaient venus avec une équipe assez remaniée, jeune, et ils nous mettaient en difficulté. Ils jouaient super bien et c'était compliqué. Et en fait, c'était à deux matchs des phases finales. Et si on perdait, clairement, on disait au revoir à la qualification. Et tu vois, à la 78e minute, ils fermaient le jeu vraiment et ils font deux passes vers les extérieurs et moi j'anticipe, je pars de mon aile tout au fond et je viens intercepter le ballon et je finis entre les poteaux et je marque.
Ouais, c'était dans les... T'as 50 mètres, même plus même.
Ouais, on est dans notre camp et j'étais en train de fermer le jeu, il faisait très peu de passes et là j'intercepte et je vais marquer. Et en fait, j'ai envie de te dire, c'est peut-être lui le plus marquant pour moi parce que j'ai cette sensation où pendant... une heure, Gerland, il était endormi parce qu'on était en train de faire un match soporifique et qu'on était à la rue, on allait perdre et se faire éliminer par Perpignan qui à ce moment-là était 13e du championnat et ça nous sortait de la course à la qualif. Et le moment où j'attrape le ballon, je sens tout le stade qui se lève et qui hurle et tu vois, je cours sur 60 mètres et je vais marquer Et c'était un truc de fou, tu vois, rien que d'y repenser, je me dis, mais c'était ouf, tu vois. Et je l'ai regardé plein de fois à la vidéo.
Sur les vidéos, on voit que ça...
Et de voir tout le stade qui se lève, c'est un truc de dingue. Donc, ouais, ces deux essais-là, ils m'ont marqué spécifiquement. Et tu vois, c'est des beaux souvenirs.
T'aimes bien les prendre de loin, du coup.
Ouais.
T'es un des demi-mêlés les plus rapides hein, en France. Je pense que si on faisait un concours sur 100 mètres... Ou 150,
Ah, je sais pas.
Ça peut être dans le top 3, top 4, facile, hein, je pense.
Je sais pas, moi, je sais que je vais vite sur les petites distances. Mais ouais. Après, sur le long, il y en a qui font plus vite que moi.
Ok. Tu penses à qui ?
Bah, tu vois, on les a fait il y a pas longtemps, les tests, mais Antoine Dupont va plus vite que moi et sur 40 mètres. Et Maxime Lucu et Baptiste Soirin sont à peu près similaires. C'est avec eux qu'on les a fait, tu vois.
Ok.
Je suis pas largement devant, non. Tu vois, sur 10 mètres, je suis assez rapide. Après, sur du long, je m'essouffle un peu, on va dire.
Ok, ça marche. Ah bah, tu vois, j'aurais pas dit, tu vois, comme ça. Ouais. j'aurais mis une pièce sur toi, tu vois. Ok, bah, écoute, merci pour la précision. Ouais, je voulais parler un petit peu de l'après, parce que je trouve ça assez intéressant. Et puis, c'est toujours un peu. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes aussi qui nous écoutent, qui sont dans les filières d'excellence, qui sont dans les centres de formation, et tu vois, et qui viennent écouter parce que bah, là, tu leur fais un peu une masterclass de c'est quoi le haut niveau, de c'est comment est-ce qu'on peut gérer une carrière. Et je parle pas assez souvent, tu vois, de l'extra sportif. Et moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que toi, tu l'as commencé très tôt. Et c'est pas le cas de tous les athlètes. Notamment, j'avais fait là récemment un petit post sur LinkedIn qui avait fait beaucoup, beaucoup jaser. Parce que je disais, en gros, quand t'es entrepreneur et que tu dis que tu veux devenir millionnaire, tes potes te disent que t'as pas assez d'ambition. Et quand t'es athlète de haut niveau et que tu dis que tu veux devenir millionnaire, tout le monde te dit que tu fais du sport et que c'est pas pour ça que tu devrais le faire, alors que c'est un métier comme un autre. Mais ce que je voulais dire par ça, c'est pas là, c'est que je trouve qu'on n'essaye pas d'amener les sportifs plus sur la partie un peu business et sur des projets, et que ça peut mener certaines carrières en difficulté à la fin. C'est mon point de vue, tu vois, c'est personnel. Mais en tout cas, toi, j'ai l'impression que t'as vachement bien... déjà, t'es allé vachement tôt sur l'extra sportif, sur des projets. T'as racheté une boîte, alors je sais pas si ça s'est très bien passé, en plomberie, c'est ça ? Mais si tu peux raconter un peu, je sais pas ce que tu peux raconter ou pas, mais déjà, la première chose que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as des exemples, toi, dans le rugby, de joueurs dont tu te dis, ah tiens, eux, ils ont bien géré l'extra sportif, et ça t'inspire sur les projets que toi, t'avais envie de mener, tu vois ?
Des exemples, oui, j'en ai, et tu vois, en plus, ils sont passés par Lyon, je les connais plus ou moins, tu vois, il y a en particulier Fred Michalak et Sébastien Chabal, qui sont deux joueurs, bon, qui ont une résonance un peu plus grande que les sportifs qu'ils étaient, parce qu'il y a eu cette dimension aussi image qui a joué pour eux. Et aujourd'hui, je pense que sur l'aspect business, ils s'en sortent très très bien, tu vois. Et eux, c'est des sources d'inspiration, forcément, tu vois, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont très bien maîtrisé leur après-carrière et ils arrivent à vivre de choses qui les passionnent. Et ça, c'est quelque chose, à mes yeux, qui a beaucoup de valeur.
T'as pu leur en parler, peut-être ? Un Fred que t'as pu côtoyer
Fred, oui, on a parlé, on a abordé plus ou moins ces sujets, mais pas trop en détail, tu vois. Parce que nous, moi, quand je le côtoyais beaucoup, c'était quand on jouait ensemble. Et même après, quand il est passé entraîneur, tu vois, à chaque fois qu'on a échangé, c'était plus pour parler rugby, parce que on a toujours eu ce rapport tous les deux où, bah, quand il finissait, moi, je commençais. Donc, ouais, nous, c'était plutôt rugby. Alors, on a été amené à parler de business, mais pas souvent.
Ok. Donc, c'est un peu les exemples. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup de joueurs là maintenant que je rencontre sur les sujets. T'as tout de suite vu que toi, que c'était plutôt la partie un peu immobilier, construction, qui t'intéressait ?
C'est un peu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Moi, ma mère est instite et elle a toujours accordé énormément d'importance aux études que je faisais. Elle m'a poussé, bon, d'abord, dans un premier temps, à avoir mon bac et ensuite à suivre des études supérieures. Et moi, je me suis orienté vers le génie civil. Tu vois, j'ai fait un DUT génie civil. Parce que le BTP, la construction, c'était un secteur que j'appréciais et qui, en plus, je pense, véhicule des valeurs qui sont assez similaires à celles qu'on peut connaître dans le sport et dans le rugby en particulier, tu vois. Donc, bon, c'est un domaine qui m'attirait. Donc, j'ai fait ces études-là. Et derrière, à la sortie de mes études, bah, il se trouve que ma dernière année d'études, je l'ai faite quand j'ai eu ma grosse blessure à la cheville et au péroné. Donc, j'ai passé 8 mois à l'école. Et ça, c'est des choses que... Bah, ça faisait plusieurs années finalement que j'avais pas connu, parce que j'étais toujours à l'entraînement le matin, j'allais en cours l'après-midi, donc c'était assez différent. Et finalement, j'ai passé du temps à l'école, je me suis hyper impliqué, Et je suis sorti de mon DUT en ayant vraiment appris des choses et en m'étant vraiment impliqué dans mon diplôme. Et si tu veux, ça m'a ouvert des portes qui, je pense, m'ont aussi permis de, bah, d'avoir certaines opportunités ensuite.
Tu as compris les métiers du terrain, voilà, aussi, tu vois, donc ça te permet de maîtriser.
Mais à ce moment-là, j'ai été sollicité par Bouygues Construction j'ai fait un entretien d'embauche chez eux pour intégrer leurs équipes. Et Eiffage Construction à Confluence à Lyon, là, qui était partenaire du Loup, avait dit l'idéal, ce serait que tu viennes chez nous. Et donc, forcément, le processus, il me plaisait. Je me suis dit, je viens de finir mes études et je vais aller travailler chez Eiffage. À mi-temps, pareil, je vais continuer le même format que j'avais jusqu'à maintenant, à savoir j'allais à l'entraînement le matin et l'après-midi, le coach me laissait libre pour aller en cours. Ben là, au lieu d'aller en cours, je vais aller bosser en quelque sorte et continuer à me professionnaliser sur d'autres choses. Et donc, j'ai signé un contrat à mi-temps chez EFA, j'y suis resté un an, je faisais de l'étude de prix et c'était très intéressant. Et surtout que moi, j'ai toujours eu cette réflexion-là de me dire... Pour moi, pour être un bon joueur de rugby, il faut que j'atteigne un certain équilibre sur ma vie de sportif et ma vie perso, tu vois. Et à cette époque-là, j'avais pas de copine, j'avais pas d'enfant, tu vois. Enfin, j'étais assez disponible, on va dire. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que je mette à profit le temps que j'ai de disponible pour continuer à progresser sur l'aspect professionnel, tu vois. Et donc, je suis allé travailler pendant un an, j'ai fait ça. Bon, il s'avère
t'avais quel âge à ce moment-là?
J'avais 22 ans, tu vois, 22 ans.
C'est audacieux, hein, franchement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui auraient fait ce pari-là, quoi.
Oui, oui, c'est sûr. Après, il faut savoir que le rugby, il est assez bien pensé. Enfin, les centres de formation au rugby sont assez bien pensés parce qu'ils t'obligent en quelque sorte à suivre une formation scolaire ou professionnalisante jusqu'à tes 23 ans. Donc, si tu veux, pour moi, c'était aussi une opportunité de me dire j'ai la chance de continuer à me professionnaliser jusqu'à mes 23 ans dans le cadre du centre de formation. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas moi qui faisais la demande au club. C'était proposé. On était encouragés pour continuer à nous professionnaliser. Donc, bref, c'était hyper intéressant. Mais finalement, j'étais là que les après-midi. Je ratais le gros des réunions, même si c'était des projets d'une grande ampleur. Tu vois, il y a eu la rénovation des galeries Lafayette à Lyon. Tu vois, c'est des projets qui étaient incroyables, tu vois, par rapport à ce que j'avais connu à l'école. Et j'y suis resté un an et j'ai démissionné. Et derrière, en fait, j'ai monté ma structure avec un ami, donc principalement dans le secteur de la plomberie, c'est ce que tu citais avant. Grossièrement, c'était ciblé plomberie, mais la boîte avait la possibilité de faire du tout corps d'état. Et moi, initialement, j'avais cette ambition de monter cette structure pour pouvoir en bénéficier sur tous mes projets perso ou avec d'autres personnes que j'allais faire dans l'immobilier. Donc, pour me permettre en fait, d'être dans un cercle fermé, de pouvoir utiliser cette structure qui travaillait réellement et qu'on faisait vivre, hein, et de l'utiliser pour mes projets perso et générer du déficit foncier, enfin toutes ces choses-là. Et donc c'était très intéressant, sauf que sur le long terme, on a été confronté à quelque chose d'assez particulier, c'est que quand même on avait deux visions différentes, parce que moi, bon, c'était toujours en rapport au financier, moi l'argent, j'en ai besoin, je vais avoir besoin d'en bénéficier à la fin de ma carrière, donc à horizon plutôt 10 ans. Et lui, il avait besoin que ça rentre aussi tout de suite, donc forcément il y a eu une différence de vision qui a fait que nos chemins se sont séparés au début de l'année, là, même si nos relations sont toujours stables et on est toujours de très bons amis. Mais je pense qu'après, il faut prendre en compte les contraintes et les besoins de tout le monde. Et voilà, on a dû évoluer. Donc moi, je me projette sur d'autres projets, je me projette sur d'autres investissements de ce même type après la Coupe du Monde, j'espère. J'ai quelques idées en tête et je sais à peu près où je veux aller, mais pour l'instant, je me laisse aussi le temps de passer cet événement le plus sereinement possible et je penserai à ça à la suite.
Ouais, c'est difficile de tout cumuler, il faut aussi, tu vois, le faire pendant les périodes où c'est un peu plus plat, et là, c'est normal que le sportif prime. Mais écoute, merci de partager en tout cas cet apprentissage. Certains pourraient dire que c'est bon, une boîte qui ferme, c'est pas une réussite, c'est pas un échec non plus, tu vois. Mais en tout
cas, elle est pas fermée, hein. Ouais. Elle est toujours ouverte, mais okay. Sans moi.
Ok, ok, d'accord. Ouais, ce qui peut se comprendre. Mais effectivement, si t'as un associé qui a besoin de se rémunérer et que toi, ça maintient plus sur les projets, quoi. Mais hyper intéressant. Tu te verrais comment, toi, dans 10 ans, justement, sur l'extra sportif? Qu'est-ce que tu aimerais bien développer? Les projets qui te font rêver?
En fait, on me pose souvent cette question et tu vois, moi, quand je me projette sur l'avenir, j'ai du mal à répondre parce que je me dis tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour m'entrouvrir des portes. Si tu veux, je suis conscient que d'ici 10 ans, il va y avoir beaucoup de choses dans ma vie qui vont évoluer. Je sais pas si je vivrai toujours où je vis actuellement. Peut-être que j'aurai changé d'endroit, peut-être que j'aurai changé de club. Et je sais pas quelles opportunités j'aurai à ce moment-là. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais en me disant, bah, je m'en trouve des portes pour me dire, ok, si demain j'ai envie de travailler dans le BTP ou dans la construction, dans l'immobilier ou ce genre de choses, c'est des secteurs que je maîtrise un peu. Aujourd'hui, j'ai pas la légitimité pour dire je peux travailler à temps plein dans ces secteurs-là, mais au moins j'ai anticipé et je connais plus ou moins les différents aspects qui composent ce secteur d'activité. Et voilà, je peux attaquer sans me retrouver dans la situation où je viens de finir ma carrière de rugbyman, je me retrouve dans une boîte et je suis là juste parce que j'ai été un ancien sportif et voilà, on a envie de me faire une fleur, quoi. Non, moi, si j'ai envie de travailler dans le BTP, c'est parce que quelque part, c'est un vrai secteur qui m'intéresse et j'ai acquis aussi des facultés et des connaissances qui me permettront peut-être, après ma carrière, de travailler dans ce secteur d'activité.
Ok. Juste avant de commencer, tu me disais, ouais, nous, au rugby, on est plutôt bien éduqués justement sur l'après parce qu'il peut arriver un peu n'importe quand. C'est une peur réelle, tu vois, ou c'est un doute qui existe de se dire, tiens, n'importe quel moment, ça peut tout simplement dire stop, quoi. Les médecins peuvent dire, on arrête.
Bah, je pense que c'est un message qu'on nous a souvent transmis. Finalement, on nous a souvent dit, préparez-vous parce que ça peut aller vite. Mais je pense que quand on est joueur, on a du mal quand même à prendre conscience de ça. Tu vois, on a du mal à se dire, ok, du jour au lendemain, t'as une grave blessure, ça peut s'arrêter. C'est parce que c'est dur de se mettre dans cette position-là. Malgré tout, c'est ce que tu dis, c'est assez vrai, c'est qu'on est hyper averti par rapport à ces situations, parce qu'elles existent. Hein. Et je pense que de plus en plus, les joueurs anticipent un petit peu, tu vois, leur après-carrière et se préparent à l'avenir, quoi. Je pense que c'est dur d'arriver au moment où ça s'arrête et tu te dis, bah maintenant, je vais faire quoi? Donc là, il y a quand même pas mal de joueurs qui se projettent et qui essayent de créer d'autres activités à côté. Donc, c'est principalement l'immobilier, je pense, aujourd'hui, ce que les joueurs essayent de mettre en place. Mais je pense que c'est bien. C'est bien déjà d'avoir d'autres sources de revenus et de se protéger en cas de pépin, quoi.
Ouais. Les banques, elles prêtent facilement, tu vois, à des joueurs justement qui ont 25, 27 ans, tu vois, qui vont encore avoir quelques années de carrière pour emprunter sur 25 ans ou 20 ans. Alors 25 ans, c'est plus rare là en ce moment, mais pour 20 ans, pour justement faire de l'immobilier locatif et tout, ils prêtent encore?
Ouais, bah, je pense que... Bon, malgré tout, on a des contrats qui sont courts, mais on a des revenus qui sont élevés. Donc, à mon avis, on n'est pas les plus à plaindre en ce moment pour se faire prêter de l'argent. Donc, on a quand même quelques leviers et il faut qu'on en profite, c'est sûr.
Ouais, c'est sûr. C'est un privilège et il faut l'utiliser. Après, c'est un privilège que tout le monde peut utiliser. Moi, j'ai un copain qui était policier, qui gagnait à peine plus que le SMIC. Il a commencé, tu vois, à 18 ans et aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir 25 studios, tu vois, et il a quitté son job. Et lui, il m'a toujours dit, tout le monde peut le faire, quoi. Si tu te bouges, bon, faut se bouler, c'est beaucoup de boulot, ça peut être douloureux et tout, mais tout le monde peut s'y mettre, quoi. Donc, respect à lui. Petite pensée pour toi, Benjamin. Écoute, j'arrive un petit peu sur la fin de mes questions. Donc, j'avais quand même des petites questions de la fin que j'aime bien poser, notamment aux joueurs dans les sports d'équipe. C'est de savoir un peu... c'est des petites questions un peu rigolotes sur les joueurs. Tu peux prendre des joueurs du Loup, des joueurs de l'équipe de France. L'idée, c'est pas forcément de balancer, mais c'est de les passer un petit peu à la moulinette et de voir un petit peu les personnalités. J'en ai cinq petites questions. Et bon, t'as le droit à un joker quand même. La toute première question que je pose, c'est qui le joueur à qui il faudrait vraiment, vraiment pas piquer le goûter?
Demba Bamba. Je pense, lui, faut pas lui piquer, Demba. Ah, tu prends des risques.
Ok, il goûte quoi d'ailleurs? C'est quoi son goûte?
Il mange tout, Demba.
Ok, ça marche. Je vais me renseigner. Avec qui t'aurais envie de monter un business?
Je pense qu'au club, je m'entends très bien avec Xavier Mignot. On a un peu la même philosophie... sur tout ce qui est entrepreneuriat et tout ça, donc je pourrais me projeter à monter un truc avec lui. Ouais.
Ok. À qui tu te demanderais d'organiser la soirée d'anniversaire de tes 30 ans?
Kylian Gerassi, qui joue à Lyon avec moi aussi Et je pense que lui, ce serait la personne adéquate.
Ok, ça marche. Lequel rentre en dernier lors des belles soirées de troisième mi-temps?
Ça, je peux pas le dire, ça, normalement. ça va lui attirer des problèmes, forcément.
Ok, bah, ou je peux dire celui qui rentre en premier. Le plus sage.
Ouais. Le plus sage, Dylan Crotin, à chaque fois.
C'est vrai?
Ouais, il est assez calme.
Ok.
Assez sérieux.
C'est un de tes très bons potes, en plus, non? Ouais, vous connaissez
très,
depuis longtemps.
Très potes, on est tout le temps en chambre ensemble en sélection, donc, bon, même en club, d'ailleurs. Mais il est très, très studieux et c'est bien, être très professionnel.
Ok. J'aimerais bien l'avoir, Dylan, aussi. Ouais. C'est vrai que on m'a souvent dit que c'était un garçon qui avait un peu du plomb dans le crâne et qui avait beaucoup de rigueur, en tout cas. Lequel sera le parrain de tes enfants, si tu veux des enfants? C'est pas une obligation.
Ah, c'est dur. Hein. J'ai beaucoup de bons amis, mais certainement que le parrain de mes enfants, ce sera mon frère, à mon avis, plus qu'un collègue du rugby. Enfin, en l'occurrence, mon frère, c'est un collègue du rugby aussi, donc ça peut être mon frère.
Ok, ça marche. Et la dernière petite question, à qui tu prêterais pas ta voiture?
Ah bah Demba aussi, je lui prête pas ma voiture. Non, pas de goûter, pas de voiture.
Pas de goûter, pas de voiture. Ça marche, bah écoute, ça rend curieux. Écoute, la toute dernière question que je pose pour ces interviews, c'est un peu comme un passage de flambeau, c'est plutôt un passage de micro. Mais c'est quel joueur t'aurais envie de découvrir un peu sur un format comme ça, avec des questions où on peut prendre un petit peu le temps? Ou quel joueur tu me recommandes d'aller voir, justement, parce qu'il a des choses intéressantes à dire?
Dans mon entourage?
Ouais, dans ton entourage. J'aime bien aller voir les copains des copains, tu vois. C'est comme ça qu'on fait grandir un petit peu la communauté des invités.
Et ben là, en l'occurrence, je te dirais Xavier Mignot, ça vaudrait le coup. Parce que je pense qu'il a énormément de passion et il aurait plein de trucs à te raconter. Bon, sinon, mon petit frère, Dylan, je pense qu'il y a de quoi faire.
Bah écoute, merci pour les recos. Je sais qu'on s'amuserait bien et qu'il serait cool pour jouer l'exercice. Merci infiniment.
Merci
pour,
à toi.
Pour cette grosse heure. Je te libère à l'heure. On a fait 1h10, ça va. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que tu n'as pas fait beaucoup d'interviews cette année. Tu t'es concentré et c'était un grand plaisir de t'avoir.
Avec plaisir.
Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !